Judaïka. Auditeurs, auditrices, nous sommes le lundi 22 mars 2021. Il est 20h. Nous sommes ravis de vous retrouver ce soir, comme tous les lundis. Pourquoi ? Pour On joue la prolongation.
En retrait pour Giresse, en retrait pour Giresse, la tête dans le paquet, et le
prise de
Goal pour la
Belgique. Alors ça, je n'ai vraiment pas peur de le dire, mais surtout, vous êtes un salaud.
Goal, c'est
encore
une fois.
Et voilà, on est vraiment heureux de vous retrouver. Ce soir, genre autour de moi, trois excellents intervenants dont les voix vous sont familières, je le sais, des trois intervenants brillants. D'une part, attendez, on a, hop, et voilà, alors on a trois intervenants brillants, bien sûr. Son équipe a réalisé la grosse performance du week-end, hein, en réalisant un beau match, mais à 4 journées du terme de la phase classique, tout cela n'arrive-t-il pas un peu tard? On va se poser la question avec lui. Bonsoir Henri Daniel. Pardon, on t'a...
Il n'est jamais trop tard, quelle victoire!
Il n'est jamais trop tard, c'est bien, c'est une bonne...
Ne boudons pas notre plaisir.
C'est vrai.
On a écrasé Jules.
Ça arrive tellement souvent. Lui, par contre... Bon, alors... Contrairement à son équipe de cœur, il ne terminera pas l'année en roue libre. 2 mois sans victoire en Pro League, une qualification en play-off en volée, pas de problème pour les Rouches qui n'ont plus qu'un objectif en tête, là.
La coupe.
La Croquis Cup.
Mais
bonsoir Steve Gris.
Bonsoir à tous, mais ceux qui ont vu le match vendredi soir, c'était pour moi un des matchs les plus agréables à regarder depuis le début de l'année. Et je suis objectif quand je dis ça.
Bon, bah, alors, faut pas bouder son plaisir, on l'a dit. Hein. On l'écoute encore un peu, ouais. Ce soir, c'est spécial. Hein. Ah! Et si la solution pour l'OM de Sampaoli était de ne jouer que contre des clubs bretons? Eh oui, car après des victoires convaincantes sur Rennes et Brest, l'Olympique de Marseille, s'est écroulé ce week-end à Nice. Alors l'effet Sampaoli a-t-il déjà fait pchit? On va en parler avec lui. Bonsoir Blaise van der Linden.
Bonsoir Samuel, bonsoir à tous. Un peu comme mes deux compères du soir, en fait, les week-ends se suivent et ne se ressemblent pas du tout.
Ah, c'est ça, c'est...
Alors, quand même, il faut le signaler, on retrouve au micro Sam Cujas en studio.
Eh oui, je vous avais fait des, non pas
avec
des infidélités, joie. Mais je n'ai pas pu venir pendant 2 semaines, pour cause, vous vous en doutez, de respect des consignes sanitaires. Tout allait bien, je rassure les gens qui seraient...
Moi, je crois que tu attendais une victoire pour venir.
Oui, c'est ça. J'attendais une victoire du Paris Saint-Germain. Écoutez, aujourd'hui, on a un beau programme. Encore une fois, un beau et riche programme. On aura tout d'abord en ligne dans quelques instants Nicole Paulus, la porte-parole de la famille des Rouches, l'association qui regroupe l'ensemble des clubs de supporters du Standard dans le pays. On parlera avec elle de cette saison si particulière pour les supporters et notamment ceux d'un club pour lequel la notion de 12e homme ou 12e femme prend tout son sens. On parlera ensuite de la Jupiler Pro League et du sprint qui est désormais bien lancé pour la course à la qualification au Play-off 1. Cette semaine, il y a relâche côté football de club un peu partout en Europe et on a le retour des matchs internationaux. On parlera donc de la longue sélection dévoilée par Roberto Martinez, du programme des Diables et des chances des uns et des autres à 82 jours du premier match de l'Euro. Pour la Belgique, ce sera le 12 juin prochain à 21h face à la Russie. Puis on parlera de la Ligue 1, un peu un championnat qui habituellement à cette époque de l'année a déjà sacré le PSG. Le PSG d'habitude est déjà hors de la Coupe d'Europe. Eh bien, contrairement aux autres années, la course au titre bat encore son plein et le PSG est qualifié en Ligue des Champions. Drôle d'année, hein. Enfin, on se penchera sur les compétitions anglaises, en l'occurrence la FA Cup, et italienne avec la Serie A, deux compétitions qui ont encore une fois vu briller des Diables Rouges. On va en parler de ça et de plein d'autres choses. Ça y est, c'est parti. On va démarrer. On va voir si on a notre interlocutrice au téléphone. Bonsoir, est-ce que vous nous entendez, Madame Paulus?
Ah oui, bonsoir.
Parfait. Eh bien écoutez, on est ravis de vous accueillir dans notre émission On joue la prolongation sur Radio Judaïka. On a plein de questions à poser. Donc je rappelle, vous êtes la porte-parole de la famille des Rouges. C'est l'association qui regroupe l'ensemble des clubs de supporters du Standard en Belgique, côté francophone mais également néerlandophone. Écoutez, le plus efficace, le plus simple, c'est que je vais vous laisser entre les mains d'un de vos frères de cœur, un homme qui est en face de moi là dans le studio, qui est tout rouge. Il s'appelle Steve Gris et son cœur bat comme vous pour le Standard. Je te laisse.
Non mais ça, bah écoute, ça fait plaisir d'avoir un quart d'heure, 20 minutes, rien qu'entre rouges.
On va vous regarder, mais allez-y à votre aise.
On se regarderait bien. Bonjour Madame Paulus, comment allez-vous?
Bonjour, bah, très bien. Enfin, disons que c'est une année particulière, alors on pourrait mieux aller, mais enfin, ça va quand même. Allez.
Bon, écoutez, tant mieux. Et c'est évidemment la première question que je voulais vous poser, je pense qu'on se pose tous. Comment fait-on pour être supporter en cette période de Covid où, par définition, ben, on a que la télé pour regarder des matchs dans les stades vides?
Mais c'est pas évident, vous vous en doutez bien que franchement, quand c'est une passion en plus, ben voilà, on doit refrainer, on doit essayer de trouver des alternatives, des choses comme ça, mais non, c'est pas évident du tout. Je vais dire que moi, mon club de supporters, je trouve, sont relativement calmes. Je veux dire, on est résignés, quoi, quelque part, on est résignés. Pour d'autres supporters du Standard, pour lesquels vraiment, je vais dire, c'est, pour certains d'entre eux, c'est quelque chose vraiment de vital. Hein. Je pense qu'il y a vraiment des personnes pour lesquelles l'achat de l'abonnement, faire les déplacements, c'est vraiment, ça consacre vraiment une grande partie, notamment de leur budget et tout. Donc c'est vraiment une chose très très importante pour elles. Et honnêtement, je ne sais pas comment elles vivent ça. Ça doit vraiment être très très difficile, vraiment. Maintenant, on est tous dans le même bateau, on ne saurait rien changer, donc il faut vraiment prendre son mal en patience. Mais...
Oui, vous avez raison. Voilà. Est-ce que cette situation, justement, où on est tous un peu dépités, a altéré votre passion ou la passion, en tout cas, des supporters avec qui vous êtes en contact?
Non, ça pas du tout. Non. Nous sommes seulement, en plus, évidemment, d'autant plus attristés que, comme je le pense sincèrement, tous les clubs sont dans la même situation, donc c'est une situation évidemment de frustration par rapport à l'absence de supporters. Mais je pense que cette situation pénalise davantage le Standard, pour lequel ces supporters évidemment sont absolument exceptionnels, on peut le dire.
Hein. Je suis entièrement d'accord avec vous. Oui.
Le 12e homme de Stéphane n'est pas là et je suis sûre que ça leur a vraiment porté préjudice. Donc c'est d'autant plus râlant, enfin en tout cas, c'est vraiment très difficile à supporter. Voilà. Oui, la passion reste là.
Oui, vous avez bon espoir que les choses puissent revenir à la normale, je dirais entre guillemets, dès la saison prochaine?
Écoutez, excusez-moi, mais je n'ai pas entendu la communication.
Oui, vous m'entendez mieux là. Je dis, est-ce que vous avez bon espoir qu'on puisse revenir au stade et que les choses puissent reprendre leur cours normal pour chaque supporter dès la saison prochaine?
La saison prochaine, oui, j'espère vraiment, oui, je pense. Disons que moi je crois beaucoup en la vaccination et quand nous allons vraiment comme ça retrouver nos libertés, je pense que moi, oui. Peut-être pas au mois d'août directement, mais au mois de septembre. Enfin, j'espère.
On espère tous et on croise les doigts. Vous avez dit que l'absence de supporters pénalisait très fortement le Standard. Chose qu'on a beaucoup évoquée ici à l'antenne. On l'avait évoquée notamment au début de la saison pour le Standard et pour Bruges. Bon, on semble voir que Bruges semble en tout cas moins pénalisé, en tout cas dans les points. Mais on est tous d'accord que le Standard est en partie pénalisé du fait de l'absence de son 12e homme qu'on sait si important dans l'enfer de Sclessin. Quel bilan tirez-vous à ce stade de la saison du Standard?
Excusez-moi, je n'ai pas entendu la dernière partie de votre question. Je suis vraiment désolé, mais il y a des grésillements dans la communication.
Non, il n'y a pas de souci. Ça doit être la grande distance entre Bruxelles et Liège. Je vous demandais quel est votre bilan que vous pouvez déjà tirer à ce stade de la saison de votre club, le Standard.
Oui, bon, bah, écoutez, là, ce n'est peut-être pas la saison qu'on espérait, évidemment. C'est qu'on avait bien commencé, puis ça s'est effectivement effiloché. Bon, du fait évidemment de cette absence de supporters, entre autres. Quand je pense que notre premier entraîneur, M. Montagny, n'a même jamais eu l'occasion de connaître l'ambiance de ce Fessin. Pas un match ne s'est déroulé normalement, quoi, vais-je dire. Donc ça a été, tout au plus, on était à peu près 7000 supporters, je pense.
Oui,
on a
fait,
pu
oui.
réintégrer les stades pour deux ou trois matchs. Donc, enfin, c'est assez incroyable quand on y pense. Donc là, ça ne s'est pas très très bien passé, évidemment, à cette période-là. Nous avons eu des contacts, notamment avec des joueurs, avec la direction, pour essayer de les remotiver. Bon, on a eu évidemment le changement d'entraîneur qui, je pense, a quand même, satisfait la plupart des supporters, parce que je pense qu'il a quand même amené un autre esprit dans l'équipe. Et là, ça a pris quelques matchs d'euphorie. Nous sommes un peu retombés dans une plus triste réalité. Mais nous avons la coupe, nous aurons la coupe, n'est-ce pas? Nous y croyons.
Mais bien sûr que nous aurons la coupe, Madame Paulus. Mais, et vous pensez que cette mauvaise saison, donc on est d'accord certainement que le Standard a été désavantagé en partie par son absence de public, mais c'est dû à quoi? Un manque de qualité de l'effectif, un manque de mentalité, même si, parce qu'on voit que finalement, après avoir changé d'entraîneur, comme vous venez de le dire, il y a eu un sursaut avec un 12 sur 12, mais par la suite, le Standard est vraiment rentré dans le rang. Qu'est-ce qui manque cette année?
Oh, c'est difficile à dire, puis je ne suis pas vraiment une spécialiste à niveau, je ne veux
mais
pas non plus.
Chaque supporter est spécialiste, on le sait bien.
Le coach, mais je pense aussi qu'on a une équipe très jeune, on voyait encore la moyenne d'âge au dernier match contre Game, c'est vraiment très très jeune, mais tant mieux, envie de dire, parce que c'est vraiment de bon augure pour l'avenir. Peut-être ces jeunes-là auraient-ils besoin d'être encadrés par l'une ou l'autre personnalité qui manque peut-être au sein de l'équipe, je ne sais pas. C'est peut-être une possibilité, quoi. Mais je pense qu'il faut aussi que ces jeunes prennent de la maturité, mais je ne sais pas. Enfin,
qui restent au Standard, quoi, surtout.
Et qui reste au Standard, en tout cas quelques années, oui, avant de partir sous d'autres cieux, puisque malheureusement en Belgique, on est plus capable de garder nos joueurs de qualité. Hein. Ça, c'est aussi une
non, et c'est un problème, réalité. C'est un problème assez général. Et il y a une question qu'on se pose beaucoup au studio ici, et on serait très heureux d'avoir vos lumières, vous qui suivez énormément le club. C'est qu'est-ce qui se passe avec Mehdi Karcela? Est-ce un problème de mentalité ou est-il en fin de carrière? On en débat quasi toutes les semaines ici.
Que puis-je vous dire? Je ne suis pas dans le secret des dieux.
Ah non, mais nous non plus, mais on est très intéressés par votre évidemment, vu que vous suivez parfaitement, enfin vous suivez énormément le club, on est aussi curieux parce que pour nous c'est une interrogation, peut-être pour vous aussi.
Mais oui, je pense que c'est un mystère. Et on sait en tout cas, là, je pense que tous les supporters en sont absolument persuadés que Karcela est un amoureux du club, qu'il n'a qu'une envie, c'est d'y jouer, d'y terminer même sa carrière. Enfin, moi, je pense vraiment que c'est son bonheur d'être, comme il le disait lui-même, le Standard, c'est un peu sa famille. Donc là, je crois qu'il est vraiment animé d'une grande passion pour le club. Maintenant, écoutez, on peut avoir un peu de méforme aussi. Je ne sais pas, je ne saurais pas expliquer. Je pense qu'il a aussi été quand même très très perturbé, d'après ce que j'ai entendu dire, par la situation sanitaire. Je pense que c'est quelqu'un d'extrêmement sensible. Je crois qu'il a vécu difficilement tous ces mois qu'on vient de vivre. Ça peut aussi expliquer. Vous savez, il y a tout un faisceau de circonstances. Maintenant, on ne peut pas dire exactement ce qu'il en est. Mais enfin, nous, je pense que la mentalité de Marc Karcela, non, parce que je pense qu'elle n'est pas à mettre en doute, je crois, parce que sa passion pour le Standard, ça, on y est vraiment très sensible, quoi.
Oui, en effet, bah oui, c'est le chouchou des supporters. On se souvient qu'à un moment, même Montagnier, lorsqu'il n'était plus très, voilà, il était dans une très mauvaise phase, les supporters, lorsqu'ils étaient présents, ont crié le nom de Carcella et cinq ou dix minutes plus tard, il l'a fait monter. Merci en tout cas pour tout ça. J'avais également une interrogation, concernant la structuration du Standard et du club de supporters. C'est formidable qu'un outil comme la Famille des Rouges qui institutionnalise finalement, et qui regroupe l'ensemble des supporters et qui, je l'ai déjà lu, a des rencontres, des relations avec la direction. Comment ça se passe finalement la coordination entre vous et la direction? Est-ce qu'il y a des rencontres régulières? Est-ce que vous avez votre mot à dire? On sait qu'il y a un président dont on dit souvent qu'il est un président supporter. Quelles sont vos relations en tant que famille des Rouges avec la direction du Standard?
Mais écoutez, jusqu'à présent, franchement, très bonne. D'abord, il faut vous dire dans la structuration, comme vous dites, que dans un des membres, notre président d'ailleurs du conseil d'administration de la Famille des Rouges, siège également dans le conseil d'administration du Standard. Donc ça, c'est déjà, disons, un point de rapprochement, quoi. Et alors, nous avons également au sein du CA de la Famille des Rouges un employé, si vous voulez, du Standard, qui fait le lien vraiment entre la Famille des Rouges donc et l'administration du Standard.
D'accord.
Donc ça, c'est vraiment déjà deux choses évidemment essentielles. Et alors c'est vrai qu'on est vraiment en contact assez régulier avec la direction. Ben voilà, vous donniez l'exemple qu'au mois de décembre, ça ne se passait pas très bien. Ben nous avons rencontré Monsieur Niquez, Monsieur Grosjean à l'académie, on a pu discuter avec eux, on les a encore revus au mois de janvier, on a aussi eu l'opportunité comme ça que la direction a organisé évidemment de rencontrer les joueurs, voyez-vous, donc là il y a vraiment quand même un partenariat en tout cas, même si évidemment on avait des beaux projets que le Standard d'ailleurs nous aurait aidé à financer, etc., qui n'ont pas pu être réalisés étant donné la situation, mais la relation en tout cas est très bonne. Et je pense aussi qu'on peut s'exprimer vraiment librement quand on n'est pas d'accord, quand on a des reproches à formuler. En tout cas, ça a été fait ces derniers temps. En tout cas, on a pu parler en toute franchise avec la direction.
D'accord, mais ça c'est vraiment très positif. Je ne sais pas si ça se passe comme ça dans les autres clubs, mais en tout cas c'est très bien pour le soir. Mais est-ce qu'elle vous écoute, la direction? Et ma question est la suivante. J'avais souscrit, moi personnellement, je vais le dire, il y a quelques années, à un projet qui était le projet un peu comme à Barcelone des socios, c'est-à-dire où les supporters allaient véritablement pouvoir acquérir des parts de manière symbolique ou moins pour certains, et pour devenir véritablement partie prenante structurelle et pouvoir donner un corps aux décisions qui sont prises. Je sais que malheureusement ce projet, je ne sais plus pour quelle raison, n'est pas allé de l'avant. Mais est-ce que justement c'est une écoute pour le moment, ou est-ce qu'il y a vraiment, vous pensez, dans le futur, une possibilité de pouvoir peser sur les décisions structurelles, les décisions de transfert éventuellement?
Ça, écoutez, je n'en sais rien. Maintenant, vous dites, est-ce que la direction nous écoute? Bah ça, parfois oui, parfois non. Ben voilà. En tout cas, on a l'occasion de s'exprimer. Maintenant, c'est quand même toujours la direction qui dirige, évidemment. D'accord. Mais enfin, en tout cas, on a l'occasion de s'exprimer. Alors, le projet social, c'est vrai que M. Benaldi, au début, en avait parlé. Je pense qu'on avait été, enfin, beaucoup d'entre nous étaient vraiment très, très enthousiastes à cet égard. Mais malheureusement, le projet est tombé à l'eau. En tout cas, on n'en parle plus. C'est un peu dommage, parce que je pense que c'est vraiment, enfin, je trouve que ce serait vraiment une belle initiative, quelque chose à essayer de reconstruire, me semble-t-il. Ben, ça, ça n'engage que moi, hein, mais enfin, on était quand même plusieurs à trouver ça vraiment assez chouette, quoi.
Ah, ok, mais écoutez, c'est vraiment super. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour les prochaines années, vous, en tant que supporter du Standard et pour le club?
Que, comme vous disiez, que nos jeunes restent, qu'ils deviennent encore meilleurs, qu'ils nous permettent d'être champions, donc assez rapidement, parce que ça c'est quand même la grande espérance, dirons-nous. Hein. Mais cette année, souhaitez-nous la coupe, hein. Voilà.
Ah ouais, moi
c'est déjà très très bien.
Je nous la souhaite, la coupe, et champion l'année prochaine. Après, c'est ce que Bruno Venanzi avait dit, hein, après les chips, la bière, hein, si je me souviens bien.
Mais oui, mais on attend toujours. Hein, on attend toujours la bière, quoi.
Ah ben bah écoutez,
enfin, bon.
Dès qu'on a la possibilité, on pourra le fêter ensemble, et nous irons au stade d'abord, et puis pour fêter le titre ensuite.
Avec plaisir, avec plaisir.
Merci beaucoup en tout cas pour avoir répondu à toutes nos questions, c'était très intéressant.
De rien, merci beaucoup à vous de vous intéresser au standard, c'est toujours un plaisir.
Merci beaucoup Madame Paulus, on était ravis de vous avoir. Voilà. Et puis on souhaite une bonne fin de saison et surtout effectivement pour le match le plus important de cette fin de saison, la finale de la Coupe. On souhaite plein de bonnes choses.
Merci.
Au revoir.
Au revoir.
Eh bien écoutez, c'était bien intéressant tout ça.
Oui, ça nous a permis de voir qu'il y a, on le sait, des discussions qui se passent de manière structurelle avec la direction, mais qu'on n'est pas encore dans un système plus abouti, comme ça peut se passer dans d'autres pays ou d'autres clubs où véritablement les supporters ont un poids décisionnel.
J'ai l'impression que c'est hyper compliqué, en fait, que ce soit ici ou bien dans d'autres championnats. C'est beaucoup les grosses équipes dans les gros championnats qui arrivent à faire ça, mais ici, ce serait tellement dur, je trouve, de faire le système de socios comme tu demandais à...
Je ne sais pas, parce que si on le fait dans un gros club, en quoi est-ce que ce serait difficile, justement, de le faire dans un petit club ?
Parce que tu sais, dans ces gros clubs, c'est vraiment dans la tradition, c'est pas des trucs qu'on a instaurés qu'on vient de mettre.
Oui, ça s'est construit comme ça.
Exactement, ouais. Les clubs ont été créés de cette manière.
T'as déjà, il y a quelqu'un qui siège au conseil d'administration, si j'ai bien compris. C'est déjà pas mal, je trouve.
Oui, et puis la difficulté, évidemment, on sait qu'il y a toujours autant d'avis que de supporters. Si vous faites un système de socios,
c'est ça.
Quelle voix va-t-elle porter au sein des structures décisionnelles?
Et on le voit par exemple au Barça, où ces derniers temps, ils se sont tous tirés dans les pieds parce que chacun voulait un nouveau président ou un nouvel entraîneur. Et donc, c'était un peu parti en cacahuète complet, quoi. Et comme tu dis, il y a tellement de voix que...
J'ai un peu peur que de toute façon, le poids sera toujours un poids économique. Et la part des supporters dans le poids économique d'un club, entre les transferts, les droits télé, les sponsoring, les montages financiers avec les tribunes, par exemple, au hasard. le poids du supporter n'est plus le même que ce qu'il pouvait être il y a une génération.
Non, c'est vrai, je lisais, je ne sais plus dans quel journal ce week-end, que le ticketing finalement ne représentait qu'une partie qui était devenue... pas infime, mais en tout cas beaucoup moins importante que d'autres rentrées, comme en effet les droits télé, ou les droits liés à...
Le merchandising, principalement. Enfin, je pense qu'aujourd'hui, les boutiques des stades font beaucoup plus d'argent que le stade en lui-même, en termes de tickets.
Je pense que l'ensemble... Alors, ça doit dépendre effectivement des clubs, mais je sais que pour un club que je suis particulièrement, le Paris Saint-Germain, on parlait de quelque chose comme, je vais peut-être dire une bêtise, mais aux alentours de 5 millions d'euros de pertes à chaque match, parce que il y a les publicités autour du terrain, il y a tout ce qui est les loges et tout ça, et au Paris Saint-Germain, au Parc des Princes, ils ont développé pas mal ça, et donc j'imagine que
l'expérience client
voilà, au Parc des Princes et les tout ça rapporte beaucoup d'argent, et effectivement le poids du simple supporter et du simple ticket, alors que
je pense qu'ici on sera tous d'accord en studio pour défendre le supporter, qui est quand même l'essence même du football, et le garant de l'histoire,
évidemment, de
la passion, etc.
On voit à quel point il nous manque depuis un an et demi maintenant. Enfin, un an, pardon.
Non, et puis il ne faut pas oublier que toutes ces directions, surtout en Belgique, même un peu partout, sont finalement pas du tout imperméables au courroux, en tout cas à l'avis des supporters. On sait que quand ça tangue un peu, souvent c'est sous la pression des supporters que certaines décisions sont prises, des fois même un peu à l'emporte-pièce, sous le coup de l'émotion, parce que les supporters représentent quand même un poids moral essentiel, même si effectivement ce qu'ils dépensent n'est peut-être pas l'essentiel. Sans supporters, il n'y a pas de club, donc on sait que c'est une obligation de pouvoir les satisfaire.
Souviens-toi, par exemple, avant le dernier match de Montagnier, toutes les banderoles qui avaient été affichées dans Liège ou devant le stade, enfin, c'est sûr qu'elles ont été prises en compte par la discussion, par la direction.
Oui, et puis il y a des clubs où les supporters descendent au centre d'entraînement et mettent le feu, et du coup ça donne. Un changement de direction de président. D'ailleurs, ça m'a fait beaucoup rire. Je sais pas, toi, je sais que tu as un lecteur Blaise de SoFoot.
Ouais.
Je crois que ce mois-ci, ils avaient prévu un petit peu en avance, mais la couverture, c'est Jacques-Henri Hérault.
je me suis un peu renseigné. Et ils ont fait l'interview avant qu'il se fasse avant qu'il se fasse virer, mais ils ont posé parce que dans l'interview à un moment ils demandent qu'est-ce que ça fait de plus être président ou un truc comme ça, donc ils ont rajouté 2-3 questions qu'ils ont eu au téléphone après la nouvelle. Mais cette interview est lunaire, quoi. Enfin, le mec, t'as l'impression qu'il se remet jamais en question alors qu'il
On parlera de l'OM tout à l'heure. Je vous propose qu'on démarre notre tour des stades et notre tour de l'actualité par la Jupiler Pro League, et on va commencer par le match qui a intéressé le plus de monde ce week-end. C'était pas, pourtant ça aurait dû être le choc au sommet entre Bruges et l'Antwerp, mais non, on va commencer par Anderlecht qui jouait contre Zulte Waregem. Les Mauves l'ont emporté 4-1 au terme d'une performance convaincante, hein. Alors, on peut pas ignorer le fait qu'ils ont évolué une bonne partie de la rencontre à 10 contre 11, pardon, puisque Damien Marc, côté Zulte Waregem, a été expulsé dès la 26e minute. Alors, ça a forcément aidé les Mauves à poser leur jeu, mais j'ai trouvé que pour une fois, l'équipe d'Anderlecht ressemblait vraiment à une équipe. Et souvenez-vous, on a fréquemment dit ici qu'on avait du mal à penser à une équipe lorsqu'on évoquait Anderlecht. On avait dit qu'il y avait peu de noms qui rejaillissaient et qu'on avait du mal vraiment à voir ça comme une équipe. Et bien cette fois, j'ai trouvé à la lecture de la composition de l'équipe justement qu'elle avait, passez-moi l'expression, de la gueule. Alors est-ce que c'est le retour de Verskaeren devant ou celui de Trebel au milieu? En tout cas, j'ai trouvé que l'équipe était bien armée et que les joueurs pouvaient exploiter leur potentiel à plein ce week-end. Ils ont gagné donc 4-1. Commençons par Trebel.
Très belle, c'est incroyable.
Ouais.
Moi, j'étais convaincu avant qu'il joue, donc.
Mm-hmm. Oui, on est d'accord.
Je peux pas dire que j'avais raison avant les autres, mais on est tous d'accord en studio pour se dire qu'il doit y avoir des raisons extrasportives parce que c'est pas possible.
Ouais, il doit absolument.
C'est facile à savoir les raisons sportives. C'est vraiment un sale gosse. C'est vraiment un sale gosse.
Formé au standard.
Il n'a pas été formé au standard, il était formé à Nantes, si mes souvenirs sont bons, mais oui, il est.
Pour dire ça poliment,
mais c'est pas. Oui, mais c'est un capricieux.
Ouais,
c'est un capricieux, c'est un égocentrique, c'est quelqu'un qui se voit certainement plus haut que ce qu'il est. Alors il est bien, mais cet homme est prêt à sacrifier 2 ans de sa carrière juste pour avoir raison et pour. Je ne l'ai jamais compris. Et il est, honnêtement, il est passé entre les mains de plusieurs entraîneurs. On peut pas dire que c'est un entraîneur qu'il a mis de côté. Ouais. C'est il est passé entre les mains de plusieurs entraîneurs avec la même chose pour lui. Donc moi
manager.
Oui, moi je trouve que je
il se passe des choses en coulisses aussi.
Moi je trouve absolument insupportable, mais vu que rien n'est noir, rien n'est blanc, il faut reconnaître que il ne joue quasi pas depuis 2 ans et que quand il monte, il est au-dessus de la mêlée. Mmh. Oui. Donc chapeau à lui, quoi.
C'est ça le truc en fait, c'est que sur ce match-là et sur tous les matchs qu'il a joué depuis deux ans, il est au-dessus de tout le monde. Et pourtant, et en fait, je pense que c'est là le problème, c'est qu'il pense qu'il peut aller plus haut et que, en fait, non. Juste, il est meilleur en Pro League et c'est tout, quoi.
Et donc ouais. André, tu ne pouvais pas s'en passer.
Non, ça, c'est sûr.
Ça fluidifie le jeu et puis le fait qu'il soit là, bon, il a une sûreté technique qui est vraiment au-dessus de la moyenne. J'entendais Compagnie qui disait à la fin du match, on l'interrogeait sur ses changements. Il disait ça pour faire plaisir à ses joueurs. Il disait on a des joueurs qui sont, il y a pas de 4-5 souliers d'or dans l'équipe. Ils sont tous grosso modo du même niveau et donc choisis en fonction de. Bon, moi je suis pas persuadé qu'ils soient tous du même niveau et effectivement très belle dans l'entrejeu. Ça fait beaucoup de bien à l'équipe parce que déjà comme je l'ai dit, c'est un très bon joueur techniquement et il a un apport offensif qui permet aussi de soulager les autres joueurs et pense surtout à Sambi Lokonga qu'on en avait parlé il y a quelques temps. On trouvait qu'il était seul dans ce milieu de terrain, c'était un peu l'ancrage défensif d'Anderlecht et en même temps on lui demandait d'être quasiment créatif. J'ai trouvé qu'il était vraiment soulagé et puis l'apport de Verskaeren aussi a consolidé un peu le tout. Henri,
je vais tempérer un peu le truc parce que quand même les 20 premières minutes étaient on prend un goal après 5 minutes.
5 minutes, ouais.
De nouveau sur une phase arrêtée. Enfin bon.
Faute ou pas faute de Wallon Reuter.
Quelle honte, quoi. Ouais. Ok, Vossen, il est au bon endroit.
Je sais pas si c'est une faute, mais en tout cas, c'est pas un exploit qu'il a fait.
Non.
Oh là là.
Mais jusqu'à la 20e minute, il n'y a pas un tir cadré. Bon, je pensais vraiment qu'on était reparti. Il y a eu ce fait de match, c'est comme ça, c'est un carton rouge. Je pense que personne n'a quelque chose à dire sur ce carton. Et il y a eu la bonne réaction derrière. Donc, soyons positifs, c'était une bonne réaction. Voilà, il faudrait pas que ces 20 minutes soient oubliées, quoi. Il faut travailler
dessus. Il faut travailler.
Mais ça peut être 6-7-1 avec tous les ratés, enfin les 2-3 ratés de Nmecha.
D'ailleurs, justement, tu en parles.
Ça confirme. Hein.
On n'est pas les seuls à dire ça. Écoutez.
Hachimeru, très belle, comme à l'entraînement, hein, pour le moment. Murillo, voilà Nmecha. Oh, oh, oh. passé de peu à côté du deuxième but. Aït El Hadj, Enmecha, il ne peut pas la rater. Poteau extérieur, côté, mais là, l'Allemand, ça, quand même, il manque un petit peu d'adresse pour tuer tout suspense, s'il en reste encore.
Avec un assist d'Aït El Hadj, magnifique.
Dans la foulée, ouais. Là, ouais, pas mal, excellent. Enmecha. Il
alors,
pas en réussite,
celle-là, c'est vraiment, mais je pense que personne ne comprend comment il a pu la rater, surtout comment il a pu la mettre à côté. À la limite, il la met sur le gardien, ok. Mais là, il la met à côté, quoi.
Non, c'est, je pense que Compagnie a pas d'autre avant-centre.
Est-ce que Diaby pourrait pas se mettre en pointe un peu, parce qu'il rentre, il marque, quoi.
C'est ce qu'il avait fait, oui, la semaine d'avant, je crois. Mais c'est vrai que là, j'ai trouvé, moi, que Henri, toi qui es le plus connaisseur d'Anderlecht, avec Aït El Hadj d'un côté, Verskaeren de l'autre, Sambi au milieu du terrain, avec Kullen.
Les couloirs aussi, hein. Mikhaïchenko, Murillo, ouais, qui ont exploité les couloirs. C'est un match intelligent, je trouve. Et aussi, dans le système de jeu qu'aime le Sporting d'Anderlecht, dans le modèle qu'on aime bien de combinaison en une touche, on en a eu ce qu'on n'avait pas eu depuis longtemps. Et je trouve qu'Hachimirou, il a mis un petit peu de temps à rentrer dans le match. Mais les deux cartons, d'abord un jaune et puis un rouge, c'est sur lui. Et il allait vraiment accélérer le jeu, je trouve.
Mais le milieu était très bien. Ouais. Hein, franchement, ce milieu-là,
Pour en revenir à Josh Kullen, qui n'a pas démérité, hein, je ne dis pas ça, mais je le dis depuis plusieurs semaines, son apport n'est pas suffisant. C'est-à-dire qu'effectivement, il court, il se bat, il récupère des ballons. Mais voilà, la différence, c'est que très belle, il est sur 4 goals, il fait 3 assists.
Mm-hmm. Ouais, ça... Il y a un moment où les statistiques parlent.
L'assist pour Verskaeren, moi j'étais impressionné. Ouais. Cette petite balle en cloche là.
Ouais. Le petit gauche-droite.
Ouais. Et puis le double contact de Verskaeren.
Gauche-pied-droit.
C'était superbe, hein, parce qu'il s'est infiltré, il panique pas. Et face au gardien, il réussit ce petit double contact.
Aït El Hadj qui commence à prendre ses marques, décalé sur la gauche.
Ouais, non, moi j'ai l'impression...
Un Mouzou qui revenait peut s'inquiéter, je pense.
Ouais. Il est plus relâché à Aït El Hadj. Alors, est-ce que c'est l'apport de Trebel? Moi, je pense que ça doit faciliter. C'est un facilitateur au milieu du terrain.
Après, il reste 3 matchs.
Exactement.
L'impression que c'est assez rigolo. Hein. La semaine passée, on démolissait complètement Anderlecht.
Bah, oui.
Complètement. En disant, oui, en fait, est-ce que Compagnie était vraiment la personne qu'il fallait? Est-ce que vraiment ils avaient le niveau? Et puis là, on est en train de faire l'addition individuelle de toutes les potentielles pépites qu'Anderlecht.
Attends qu'on passe au PSG, la semaine dernière, on les a défendus.
Je pense que la vérité est un peu entre les deux. Je me rappelle qu'avec Blaise, on avait un peu tempéré l'aspiration négative en disant que c'était pas aussi négatif, que Compagnie finalement il avait pas eu énormément de temps et qu'il avait pas énormément d'expérience et que dans les circonstances il faisait pas un trop mauvais boulot mais qu'il manquait quand même un peu de qualité. Et là, il faut pas que l'arbre cache la forêt non plus. Ils ont fait une belle victoire et honnêtement c'était un match agréable à regarder, ils ont bien joué, mais ça va pas faire effacer tout ce qui s'est passé.
Non, et puis
ça montre qu'ils ne sont pas si mauvais que ça, contrairement à ce qu'on pouvait dire.
Même dans un match comme ça, il reste des lacunes, et ça, c'est quand même inquiétant.
Et des confirmations, je veux dire. Brune Larsen, franchement,
oui, voilà. Il peut reprendre l'avion.
Nemecha, on le dit depuis longtemps, c'est pas un buteur, c'est un bon deuxième attaquant, mais c'est pas un buteur. Bon, voilà, Sardella a été meilleur au centre que sur la ligne.
Mais qu'est-ce qu'il est venu faire là? Parce que si c'est pas un buteur, Compagnie, il joue en 4-3 depuis le début de la saison et il est allé chercher un mec sur les côtés pour le mettre en pointe. Qu'est-ce qu'il est venu faire là? Pourquoi est-ce qu'ils ont pas mis un peu d'argent sur un vrai neuf?
Lui se voit buteur. Hein.
Ouais, mais il va être le meilleur buteur de Manchester City dans 2 ans, mais ça arrivera pas. Agüero sur une jambe, il est meilleur que lui. Même sur un orteil.
Non, en tout cas, je pense que pour Anderlecht, il faudra confirmer.
Mais en tout cas, ça se construit. Ça construit clairement. Et là, il y a eu un résultat de ce qui se construit où ça tourne pas depuis des semaines. Et puis là, il y a un match plein et il y a le résultat de tout le bon travail et de finalement quelques individualités qui ont bien été mises en avant et exploitées par Compagnie. À voir, comme le disait Henri, à voir, parce que quand on va énoncer le calendrier, il y a des sérieuses affiches et à confirmer évidemment cette très belle prestation.
Et effectivement, comme on l'a dit, il y a la trêve internationale cette semaine et donc ce week-end. On se retrouvera pour la Pro League dans 2 semaines. Le 5 avril, Anderlecht se rendra à l'Antwerp, deuxième au classement.
Puis, entraîné par un certain Verkotteren.
Voilà, entraîné par un certain Verkotteren. Puis, donc ça sera la 32e journée. Puis, après la 32e,
La 33e.
Et non, la 31e. La 31e qui n'avait pas été jouée. Ce sera le 11 avril et là, ce sera Anderlecht contre Bruges. Donc, ils vont affronter les deux leaders, les deux premiers au classement avant de terminer à Saint-Tron.
Sur le synthétique.
Sur le synthétique. Donc, ce sont trois matchs compliqués. On a peut-être la sensation que c'est un peu... Enfin, en tout cas, moi, j'ai l'impression qu'ils ont trouvé, il a trouvé peut-être une ossature. En tout cas, il devrait s'appuyer là-dessus. Mais j'ai l'impression que ça va, sauf exploit, que ça risque d'être un peu tard, pour eux.
Ils ont leur sort entre leurs mains, hein. C'est-à-dire, s'ils gagnent les trois matchs, ils sont.
Oui, c'est vrai. Donc, ils regardent au stand. Bon, au stand est peut-être un peu plus régulier, mais, si on regarde leur calendrier, c'est, ils reçoivent Waasland Beveren.
Ouais.
Ils vont au Berscott. Bon, qui est quand même en sérieuse perte de vitesse. Et puis, ils jouent chez eux contre le Cercle de Bruges.
C'est Genk, je pense, l'ennemi.
Ouais, Genk
joue contre l'Antwerp au dernier match.
C'est ça. Ils vont d'abord à Louvain contre HL, puis ils reçoivent Saint-Tron et ils finissent à l'Antwerp pour le dernier match.
Ouais, bah, il reste une place, hein, parce que moi j'avais mis Genk déjà dans le top 4. Hein.
Ouais, mais c'est pas. Est-ce que c'est fait déjà pour Genk?
Bah, passons justement. L'Antwerp c'est fait ou c'est pas fait?
L'Antwerp, ouais, c'est quasiment. Ils ont 54 points.
Donc ils en ont 5 de plus que Stand et Anderlecht,
voilà,
qui sont 4e et 5e.
Et Genk n'en a que 5 ans.
Mais il y a aussi, bon, après, il y a toujours une projection, mais il y a aussi l'état de forme. Hein. Pour moi, l'Antwerp et Genk sont clairement sur une phase plutôt ascendante. Voilà. Mm-hmm.
Il y a la finale au milieu.
Oui, mais les Limbourgeois
ont... Non, la finale de la Coupe, c'est le 25 avril.
Le 25 avril.
Les Limbourgeois ont quand même connu une saison assez particulière.
C'est réservé dans mon agenda.
C'est une saison particulière pour Genk, qui a été faite de beaucoup de séries. Ils semblaient au départ très bien placés, même en mesure de lutter avec Bruges. Puis ils ont connu une très mauvaise série où ils ont marqué, hein, ils ont fait un 5 sur 24, ce qui a permis à Bruges de s'envoler, aux autres équipes, et notamment à l'Antwerp, de recoller. Mais malgré cette très très difficile passe, quand même pendant 5 points sur 8 matchs, ça les a pas fait non plus dégringoler complètement parce que les autres équipes, comme on l'a dit, toute cette saison, ont joué sur courant alternatif. Et donc leur place dans le top 4, elle reste, pour l'instant, elle était bancale, mais elle reste acquise. Et là, ils ont quand même failli, à l'heure où les résultats sont peut-être encore plus importants, ils ont bien failli connaître une soirée difficile vendredi. Ils jouaient à domicile face au Standard, ils ont fait 2-2. Ils ont été menés, ils sont revenus au score, ils sont passés devant grâce à un doublé d'Ito, puis ils se sont fait rejoindre.
Quel joueur.
Ils se sont fait rejoindre à 10 minutes du terme sur un joli centre de Klose coupé de la tête au premier poteau par Mouleka, et tout aurait pu s'écrouler pour Genk. Enfin, tout aurait pu. Ils ont rapporté un point seulement, mais ils auraient pu ne rien rapporter parce qu'une frappe d'Amala à la 89e est venue s'écraser contre le poteau. Donc au final, Genk a sauvé un point et c'est un point qui pourrait s'avérer primordial dans la course au play-off 1. C'est vrai que Genk, tu as parlé d'Ito, ils peuvent compter sur un trio offensif de qualité, Bongonda, Onuachu et Ito, même si certains, et je pense à Onuachu, sont un petit peu là aussi sur courant alternatif. Hein, et il a marqué beaucoup, mais il y a des matchs où il passe bien au travers. Donc eux, ils peuvent s'appuyer sur cette force de frappe offensive. On l'a dit, il reste trois matchs, donc ça va être tendu.
Il y a Ostende, hein, je dirais.
Et il y a Ostende.
Et Ostende, ils ont mis un goal qui va leur apporter beaucoup, beaucoup. Ce goal à la 93e minute.
Ouais, Ostende, ils poursuivent leur belle aventure. Hein. Ils ont remporté au bout du temps additionnel le match sur un but de Gay. Ils avaient largement dominé le match hein, quand même. Ils auraient pu l'emporter plus tôt. Il y a d'ailleurs eu un but marqué par Sakala qui a été invalidé pour une raison que j'ai un peu de mal à comprendre. Je ne sais pas si vous avez vu. Il y a un corner. La balle, en fait, est... Je crois qu'elle n'est pas déviée, pas au premier poteau, même si on pense qu'elle l'est. Puis elle atterrit sur Sakala qui la pousse au fond. Et puis ce que disaient les commentateurs, parce qu'il y a eu revue par le VAR, ils disaient ah, hors-jeu. Personnellement, je n'ai jamais vu de hors-jeu sur un corner, c'est pas possible. Mais donc ils ont dû penser que le ballon avait été dévié touché au premier poteau, ce qui semblait vraiment pas le cas. Mais enfin, les côtiers auraient pu aussi lâcher et perdre un peu de terrain
tout, hein.
Et ils sont bien accrochés, ça changeait tout, hein. C'était deux points en moins et Anderlecht était dans le top 4. Donc il va y avoir vraiment ce match à 3, un petit pronostic autour de la table, lequel des 3 va sauter?
Ostende
pour Blaise.
Moi je crois que Genk va sauter.
Moi je crois qu'Anderlecht va sauter pour des questions de calendrier.
Je pense aussi. Je suis assez d'accord. Ouais.
Pas parce que c'est le moins bon des trois.
Non, mais c'est le calendrier.
C'est le calendrier.
Trois exploits. Oui. C'est pas un seul exploit d'aller battre Bruges.
J'espère pour eux, j'espère que le Anderlecht nouvelle génération n'envisage pas le fait d'aller gagner à Saint-Etienne comme un exploit. Non, mais après, disons que ce sera un match difficile.
Tu sais.
Non, c'est vrai. Et puis, ils ont Bruges, notamment.
Ils sont capables de battre les deux autres et d'aller perdre le dernier match.
Oui, ça, j'ai déjà bien connu ce type de. Gagner contre Bruges et puis aller perdre contre Courtrai la semaine suivante.
Ouais, ou perdre au Parc des Princes contre Nantes et gagner à Lyon la semaine d'après. On connaît tous ça. Mais c'est vrai que parmi les matchs difficiles, sur les trois matchs, le plus difficile peut-être, ça va être contre Bruges, parce que les Brugeois vont sans doute pas faire aussi souvent une mauvaise performance que celle qu'ils ont faite ce week-end.
Je pense qu'avant tout, les Brugeois vont pas vouloir faire de cadeaux à Anderlecht.
Exactement. Je pense que s'ils ont l'occasion de les éliminer.
Après, je pense, oui, il y a une rivalité quand même assez récente. Quand je parle récent, c'est-à-dire c'est 20-25 ouais. dernières années, assez importante, surtout dans la partie nord du pays, entre Anderlecht et Bruges. Et je pense que Bruges veut pas
s'ils
vouloir.
S'ils peuvent les enfoncer, ils le feront. Quoi.
Oui.
Ouais, et puis
c'est vrai que Bruges a pas
un point et demi.
Plus grand chose à. C'est pas qu'ils ont plus grand chose à jouer, mais ils ont 16 points d'avance. On les voit mal perdre leurs trois matchs à venir, et on voit mal l'Antwerp gagner les trois et revenir à 7 points. Donc ils auront sans doute un matelas confortable lorsque le play-off 1 démarrera. Mais effectivement, s'ils peuvent éjecter c'est pas un adversaire direct, comme tu le disais, Steve, mais une équipe avec laquelle ils entretiennent une rivalité.
Rivalité, puis surtout, leurs supporters, faut pas oublier, leurs supporters ont du mal à sortir, et peut-être eux-mêmes, on va en parler, mais de ces deux grandes défaites en une semaine,
ouais.
Dans les deux coupes, Coupe européenne et Coupe nationale. Et je pense qu'ils veulent faire plaisir à leurs supporters, avec des trophées. Les supporters ne comprendraient évidemment pas qu'ils ne soient pas champions, parce que la question ne se pose pas, ou en tout cas ne se pose plus. Ils doivent être champions, mais il faut que ce soit avec le panache, et certainement pas en vendangeant la fin de l'année. Hein.
Oui, c'est ça.
Il faut regagner la dynamique des victoires, je pense, avant d'entamer les playoffs. Je pense que c'est bien dans une dynamique de victoire. Ce qu'ils avaient, ce qu'ils ont un petit peu perdu maintenant.
Oui, sans doute, et je pense que c'est là où vous allez vous rejoindre la semaine fatale qui les a vus sortir des deux compétitions dans lesquels ils étaient bien placés, une vraie chance de victoire. Ces deux défaites les ont sans doute
secoués.
Et est-ce que c'est la raison pour laquelle là, dans un match difficile, parce que c'est quand même contre le Dauphin, contre Antwerp, le deuxième, ils ont clairement réalisé un match sans, qui je trouve est assez bien résumé par deux actions, l'une au début du match et l'autre en fin de match. Le premier but qu'ils ont encaissé, qui est marqué par le héros de cette émission, hein, on peut le dire,
Didier
Lamkelze, tout part d'un dégagement de Wolf, dont on a pu se demander s'il avait intentionnellement visé Didier Lamkelze, enfin en tout cas la zone qu'il a visée, mais sans doute, il a dégagé, c'est un dégagement plein axe assez curieux, parce que le ballon a rebondi trois fois, il n'était pas très haut, et le dégagement va causer une incompréhension entre Kosonou et Ritz, et on voit d'ailleurs sur le ralenti que Kosonou semble s'arrêter parce qu'il pense que Ritz va y aller, donc c'est je te regarde, tu me regardes, et puis finalement on perd une demi-seconde à réagir, et lui, Didier Lamkelze, il n'a pas du tout perdu de temps, il profite de la mésentente, il part dans le dos de Kosonou, et il récupère la balle, et s'offre un face-à-face avec Mignolet qu'il va battre, et après il nous a fait en plus une célébration digne de lui, à la Haaland, il s'est mis en position de yogi, il est incroyable. Et je trouve que la deuxième action symbolique du match, c'est la deuxième carte jaune reçue par Lang. Il est clairement en retard, donc il prend un deuxième jaune à la 88 ou 89e minute. Il est clairement en retard pour aller contester le ballon à Richie Delatt. Il laisse traîner la semelle, il se fait exclure. Clairement un geste de frustration de ce joueur.
Ouais, surtout qu'après il commence à essayer de s'embrouiller un peu avec le joueur de l'Antwerp. Enfin, ça, comme tu dis, c'était vraiment la frustration à l'état pur, quoi.
Le commentateur a dit, c'est à l'image du match, les stars étaient en retard. Genre.
Ouais, c'est ça. Ouais, vraiment, que ce soit la faute ou la réaction, enfin, c'est. Oui. Ça se voyait que c'était juste de la haine de la défaite, quoi.
C'est ça, non, ils étaient sans doute très mal lunés. Alors, est-ce que ce match peut être utile aux futurs adversaires des Brugeois parce qu'ils pourraient montrer les faiblesses? Moi, je crois pas tellement.
Quand même marquant, c'est que on se dit Bruges perd contre une bonne équipe. Donc, on se dit bon, bah, ça peut arriver. Enfin, c'est pas choquant qu'un quelqu'un qui soit en tête perde face une défaite en championnat. Mais ce Bruges-là, avec ce timing-là, c'est un peu... Ça pose des questions. Perdre, gagner, enfin, il reste les meilleurs, c'est pas la question. Mais de se dire qu'ils ne perdaient jamais, qu'ils étaient tellement supérieurs aux autres, et que là, ils ont eu, je le répète, hein, je répète chaque semaine, ces deux défaites qu'ils ont eues en coupe, pour moi, c'est des matchs qu'ils rejouent 8 fois sur 10 et qu'ils gagnent.
Ouais.
C'était vraiment deux coups du sort. Mais
même contre le Standard.
Contre le Standard aussi. Oui, je l'ai dit. Contre le Standard, ils étaient meilleurs que le Standard. Le Standard a fait preuve de beaucoup de panache. Ils ont joué comme des morts de faim. Ils ont joué un vrai match de coupe. Un match de coupe où il y avait que 90 minutes qui
distribuaient quoi. Celui qui aura le plus faim qui va gagner.
Voilà, et c'est vraiment et à la fin ce goal annulé. Enfin, je ne
veux pas dire.
Honnêtement, Bruges voilà était plus fort, mais c'est pas toujours le plus fort qui gagne un match. Mais là, après ces
sinon,
deux,
sinon vous seriez jamais champion.
Sinon, on serait plus souvent champion. Tu sais.
J'ai cru que vous alliez être désagréable à mon endroit.
Vous
me gardez sous. Puisque vous me gardez au chaud.
Mais Sam, c'est parce qu'on a suffisamment à faire entre nous. Hein.
C'est ça, déjà.
C'est un combat sans fin. Hein. Donc, on ne se lasse pas. Tu sais, dans 50 ans, on sera toujours avec la même chose. C'est ça le bonheur du foot.
Exactement.
Je disais donc. Ça, ces deux coups du sort, ils ont amené quoi là maintenant? Donc, ils se sont bien rattrapés contre Zult, d'accord. On s'est dit, bon, bah, ça va, ils ont bien digéré, on l'a dit ici. Mais après, ils font 1-1 contre Charleroi, où ils s'encaissent à la dernière minute. Ils viennent de perdre contre l'Antwerp. Alors, Charleroi et l'Antwerp, ce n'est pas les premiers venus. Mais 1 sur 6, je ne me rappelle pas quand Bruges a fait 1 sur 6. Hein.
Ouais,
alors, c'est clairement je ne dis pas du tout que leur supériorité. Et qu'ils sont dans une spirale négative, je ne pense pas, et je pense qu'ils vont se remettre. Mais c'est quand même un élément marquant, et pour Anderlecht aussi. Parce qu'Anderlecht joue contre eux dans deux matchs, et que c'est mieux de les prendre peut-être maintenant que de les prendre il y a cinq, six matchs.
Hein. Oui, tout à fait.
Donc, l'interview de fin de match, il dit on a bien regardé les matchs contre le Standard, on a bien regardé les matchs contre Kiev, on a bien regardé...
C'est
pas tout à fait un accident.
Écoutez, je pense.
Anderlecht peut avoir des regrets avec Cotteron. Hein. Je pense vraiment parce que vu le noyau, le noyau d'Anderlecht où il y a des choses à faire, mais où on sent qu'il n'y a pas un noyau pour être Manchester City, contrairement à ce que Kompany voulait ou veut toujours. Un Vercoteren avec ses bases tactiques à l'ancienne.
Parce qu'il est connu pour tirer la quintessence d'un groupe qui n'a pas forcément des qualités hyper développé, et donc c'est vrai que, et comme il fait un peu à l'Antwerp quoi, et c'est sûr que ce gars qui a de la bouteille avec des petits jeunes comme quasi toute l'équipe d'Anderlecht, ce serait super important, mais bon
c'était parce qu'il y avait pas de place pour les deux cocos de la même basse-cour,
c'est ça,
c'était
pour ça choisi une autre.
On a un auditeur averti qui nous dit que Bruges avait gagné 0-4 à Gand
entre-temps
oui
paraît-il
pareil. Ce qu'on dit.
Ouais, bon, Gand, ils sont tout loin.
Qui ne gagne pas à Gand. Non, je plaisante. c'est la mi-temps. C'est la mi-temps. Repos pour les joueurs, détente pour les spectateurs. Je vous propose qu'on écoute une petite chanson. Ça va vous ramener une trentaine d'années en arrière, je pense.
Là, ça va te ramener 30 ans en arrière. Ouais.
Allez, j'ai même pas besoin de dire ce que c'est, tout le monde connaît. Tout le monde connaît et reconnaît.
Corner. That's me in the spot.
C'était R.E.M. Losing My Religion, pour ceux qui n'auraient pas reconnu, ceux qui sont trop jeunes peut-être. Pardon.
Henri parlait d'un endroit hors antenne qui s'appelait le Mirano, mais plus jamais connu.
Aïe, aïe, aïe. Changement référé.
Allez, on passe à la sélection maintenant. Les Diables Rouges qui, vous le savez, ont commencé à se rassembler dès aujourd'hui. Parce qu'il y a des échéances, ma foi, il y a des échéances dès mercredi soir, puisque les Belges affronteront les Gallois, puis ils se rendront ensuite à Prague pour affronter la République tchèque, et enfin à Louvain, ils recevront la Biélorussie. Ce sont des matchs qui sont qualificatifs pour la Coupe du Monde 2022. Ce qui est curieux d'ailleurs, c'est qu'ils vont jouer la moitié quasiment de leur phase de qualification en une semaine, hein, puisqu'ils sont dans un groupe de 5 et donc ils vont jouer 3 matchs.
3 matchs en 10 jours, même
en 10 jours, ouais, du 24 au 30.
C'est samedi, mardi, vendredi, je crois.
Ouais, c'est ça. Et pour l'occasion, Roberto Martinez a élargi énormément sa liste. Il a fait venir beaucoup, beaucoup de monde, 4 gardiens notamment. On va se poser la question de savoir. Pourquoi il a fait venir autant de monde? Alors évidemment, il y a les échéances, les 3 matchs à jouer. Il a notamment sélectionné 2 nouveaux au milieu du terrain. C'est pas un hasard. Ces 2 nouveaux, c'est Sambi Lokonga.
C'est un jeu de mots.
C'est pas un hasard, voilà. Et Aurel Mangala. Pourquoi ça n'est pas un hasard? Sans doute parce qu'il va commencer à se creuser la tête, ou il a dû commencer à se creuser la tête pour savoir comment est-ce qu'il va organiser son milieu de terrain en l'absence d'Axel Witsel. Donc au milieu du terrain, je vais vous donner les joueurs qui ont été sélectionnés, retenus: Kevin De Bruyne, Sambi Lokonga, Mangala, Denis Pratt, Yuri Tielemans et Hans Van Aken. Il a également chargé pas mal sur les ailes, puisqu'il a fait venir Charles de Ketelaere, Yannick Carrasco, Jérémy Doku, Adnan Yanouzaï, le copain de Blaise, Dries Mertens, dont on va parler tout à l'heure, Leandro Trossard et Yari Verskaren.
Meunier n'est pas dans l'équipe.
Si, Meunier, il est là, mais ils l'ont en latéraux. Donc il y a beaucoup de monde à tous les postes. Je pense que c'est vraiment ça va être le rassemblement qui va être décisif pour l'Euro, qui, comme je l'avais dit tout à l'heure, est dans 82 jours, le premier match, et Axel Witsel va beaucoup manquer. Est-ce que vous avez une vague idée ou de ce que pourrait être le milieu de terrain en l'absence de Witsel?
Bah, je pense que Tielemans sera sûrement titulaire avec De Bruyne, et puis c'est le troisième qui va manquer, mais parce que Tielemans c'était déjà titulaire avec Witzel.
Ouais.
Donc maintenant il faut un gars qui défende un peu, quoi.
De Donker a une carte à jouer, mais
mais De Donker, franchement, moi je lui donnerais pas les clés du milieu à l'Euro, quoi.
Tielemans a dit qu'il était prêt à reprendre, qu'il était prêt. Il faut qu'il, je fais confiance à Martinez, il faut qu'il soit bien briefé.
C'est ça.
S'il est bien briefé, qu'il comprend sa position, qu'il se restreint, mais se restreint positivement, il faut pas qu'il voit ça comme un fardeau. S'il se restreint en descendant un peu plus, en arrachant les ballons, en acceptant de jouer un peu plus latéral et en montant un peu moins. Oui, il est parfait, mais est-ce que finalement il ne va pas casser son jeu en se bridant de la sorte ?
Justement, c'est ça, parce que c'est toujours compliqué de demander à un joueur qui a jamais vraiment joué à ce poste-là, et il doit remplacer Witzel quand même. À la limite qu'on n'ait pas Hazard et que ce soit Mertens qui le remplace. Ok, c'est pas trop dérangeant, mais là c'est Witzel, depuis la Coupe du Monde 2014, c'est lui qui tient le milieu, quoi.
Parlais de Donker, c'est quelqu'un qui sera prêt à se sacrifier justement pour une phase que des choses défensives, quoi. Mm-hmm. Mais vraiment, clairement, c'est un sacrifice d'autre chose.
C'est ça, c'est ça.
Qualitativement, quoi.
Martinez a appelé pas mal de jeunes, Sambi Lokonga, Mangala au milieu du terrain, Verscaren, De Ketelaar. Vous pensez que Doku, est-ce que vous pensez que c'est en vue de la future prochaine génération, ou est-ce qu'il va quand même en intégrer certains dans l'effectif qui ira à l'Euro cet été?
Verscaren, il est là pour l'avenir. Hein. Il a fait un match, mais il
jouait pas depuis 3
voilà,
mois.
Voilà, ouais. Enfin,
c'est un peu bizarre.
Moi, je comprends pas. J'ai pas toujours bien compris cette noyau élargi de Martinez, assez underlectois comme ça, comme si Kompany lui donnait un peu les clés.
Tu penses pas que Kompany lui souffle à l'oreille?
Non, je suis pas.
Je crois pas
la théorie du complot, mais j'ai quand même un peu le sentiment. Je suis toujours un peu étonné des fois de ces formations élargies. Maintenant, il y a une vraie réalité. La réalité, c'est Witzel, mais c'est Hazard. Hein. Et c'est Hazard, soyons clairs. Sauf miracle, Hazard, c'est une croix sur l'euro. Hein. C'est une croix sur l'euro en forme,
si,
en tout cas.
Même s'il est là, il n'aura pas joué.
Quel hasard on va avoir.
C'est ça, il n'a pas joué depuis 2 ans, Eden.
Donc il faut ce milieu de terrain qui est notre super force est totalement à reconstruire. Mm-hmm. Donc la volonté de quelque chose d'élargi, c'est à la fois les bases Verscaren qui ne servira pas grand-chose parce qu'il n'est pas en forme maintenant, c'est quelqu'un pour le futur, mais c'est aussi de voir comment ce groupe élargi va pouvoir redessiner un peu ces cartes manquantes, parce que remplacer Witzel et Hazard, il n'y a pas beaucoup de nations au monde qui savent le faire. Hein.
Ouais, je pense que c'est la raison pour laquelle il a élargi sa liste. Il a tellement élargi sa liste, c'est qu'il a besoin de voir en situation des joueurs qui vont pouvoir former le milieu de terrain, le cœur de l'équipe. Alors que, comme tu le dis, il y a deux tauliers, des titulaires qui seront absents.
Il a fait une sélection pour un mini-stage, en fait.
Oui, oui, voilà.
Seulement pour les trucs, c'est vraiment pour voir.
C'est un mini-stage, ouais, finalement, parce qu'ils sont.
Il y a des gens qui sont. Il y a Bongonda qui se demande quand même pourquoi.
C'est un peu incompréhensible.
Ouais.
Enfin, le gars, il fait peut-être la meilleure saison de sa carrière. Et...
Bon. Ouais.
Mais aussi, je pense que.
C'est la prime au. Je vais reprendre mon bâton de vieux français d'il y a 20 ans. C'est la prime à l'expatriation. On avait eu ça en équipe de France quand il y avait la génération dorée. Il y avait pas mal de joueurs français qui performaient plutôt bien en championnat de France et qui n'ont pas été sélectionnés parce que
c'est toujours le cas aujourd'hui. On sait que Didier Deschamps souffle à l'oreille de tous les joueurs qui sont en Ligue 1 pour leur dire de partir parce qu'ils ne progresseront jamais dans ce championnat. Et je pense que c'est à peu près la même chose ici.
Il ne leur dit pas d'aller au Real de Madrid. Hein.
Non. Non, il leur dit d'aller à la Juve.
À part ça, il y avait des impératifs Covid-19. Hein, il a fait une sélection de 33 joueurs. Il n'est pas sûr que tout le monde puisse
venir. Oui, alors
il y a des clubs qui interdisent d'aller en Tchéquie. Il y a le Japon qui avait interdit à Vermaelen.
Mais vraiment, moi je l'exprime. Je la vois devant moi, cette sélection, elle a de la gueule, voilà, vraiment.
Oui, mais il y a 33 personnes. Hein.
Oui,
faut en enlever 10.
Oui, mais c'est joli, vraiment. Mais moi, j'exprime une véritable angoisse de se dire, je me disais, enfin, comme de nombreux Belges, c'est cette compétition ici et maintenant.
Ouais, c'est la dernière.
Et
pour cette génération.
Et je ne sais pas, mais là, je me dis que notre star mondiale n'en sera pas ou ne sera pas en forme. Celui qui constitue le taulier, qui finalement passe relativement inaperçu, mais qui fait un job de fou entre les lignes, ne sera pas là non plus. J'ai comme une des palpitations d'angoisse.
Alors, après, on a quand même Lukaku et De Bruyne qui font une saison impressionnante. Et je pense qu'ils vont rester sur ce... Enfin, je les vois pas régresser en termes de niveau. C'est pas possible pour ces deux joueurs-là. Donc, je me dis que, on va devoir compter sur eux. Et quand on voit surtout ce que De Bruyne fait à City, parce que ça dure quelques saisons, je pense que lui, on peut très bien lui donner les clés du jeu.
Même un peu le libérer.
Exactement, il y aura pas hasard et on sait que ça va être lui qui va gérer le jeu, quoi. Et il aura deux lieutenants qui seront Mertens et Lukaku et...
Moi, je suis à la place de Martinez.
C'est déjà pas mal.
Je suis à la place de Martinez. Je convoque en colloque singulier Carrasco, Mertens et Tielemans. Je leur dis, voilà la situation. C'est bien simple. Tout le monde nous attend maintenant pour cette compétition. On va être sans deux de nos énormes stars. Il ne tient qu'à vous de faire la compétition de votre vie. Vous avez une responsabilité sur laquelle tout repose sur vos épaules.
Peut-être pas mettre trop de pression non plus. Ça va leur faire perdre les moyens.
Non, mais pas Carrasco, il a besoin.
Carrasco, il a besoin de piqûres, sinon il est
dans une routine.
Ouais, et surtout que lui, il est sur un rôle super important qui est sur le côté, qui est piston sur le côté, quoi.
Exact.
Et c'est un des rôles principaux de notre système de jeu, c'est les deux gars sur les ailes.
Et on sait qu'il est très inconstant. Donc, Martinez, je le drille pour qu'il fasse la compétition de sa vie parce que vu qu'on aura déjà deux énormes absences, il faut qu'on ait des gens qu'on n'attend pas, ou en tout cas certains qui ont du talent, qui prestent plus qu'au haut niveau.
Et je pense aussi, dans cette liste élargie, il y a pas mal de joueurs qui ont été appelés juste pour voir comment ils vont réagir face à un groupe international, tu vois. Exactement. Parce que on sait qu'être dans une équipe nationale, c'est pas tous les jours facile. Et donc, je pense qu'il y en a quelques-uns, notamment les jeunes, qui ont été appelés juste pour pouvoir se dire, ils vont passer, disons, une semaine et demie ensemble. Je dois compter sur eux pendant un mois qu'ils soient complètement concentrés et qu'ils s'entendent tous bien ensemble. Donc, on va voir ce que ça va donner à peu près dans ce groupe-là.
Il y a des questions quand même. Kaminski, pas Bodard.
Ouais, alors ouais. Il y a répondu. Hein, il a dit que c'était. Il est parti avec un groupe et que
il faut essayer de laisser Bodard aux espoirs, non ? Enfin, les espoirs, ils vont jouer l'Euro aussi. Enfin, on n'a pas besoin de Bodard. On a Castel, c'est Courtois. C'est.
Ouais, enfin, c'est suffisant. Et Mignolet. Aussi,
franchement. Enfin, moi, je préfère.
On dit Mignolet, sinon Didier va nous.
Les espoirs reviennent avec un bon résultat plutôt que Bodard ici sur le banc.
Alors, Everscaren.
Ouais, mais lui,
dans sa philosophie, il avait un groupe et il faisait partie.
Oui, alors là, ce qui est vrai en tout cas, c'est qu'être gardien, arriver à déloger Courtois, Mignolet, etc. Ça va être compliqué les prochaines. Enfin, il va falloir attendre quelques années.
C'est pour ça qu'il l'a laissé.
Faut pas oublier qu'il y a une certaine Coupe du Monde, c'était là au Brésil. Comment il s'appelle? Samy Bossut qui était parti parce qu'il était le sixième gardien. Il y a eu quatre blessés avant lui.
Ah oui, il jouait à Zult.
Il a convoqué en quatrième gardien Thomas Kaminski.
Ouais, il n'y avait pas besoin de faire venir quatre gardiens, je pense, mais bon.
Pour les entraînements.
Ouais, c'est ça.
C'est pour les entraînements, pour pouvoir faire des postes.
Yann Nouzage, qui il y a quelques années avait refusé une sélection en U21 ou en U23, on l'avait dit qu'il ne serait plus jamais convoqué.
Il est là.
Ah, mais alors lui, fameuse énigme. Hein, ouais. Parce que lui, quelle drôle de carrière, quelle drôle de mentalité.
Il est toujours capable de nous faire un match impressionnant là où on ne l'attend pas.
Et je ne sais pas si vous avez remarqué, je ne sais pas si c'est un hasard, si mes souvenirs sont exacts, mais c'est toujours avant une compétition internationale qui renaît de ses cendres.
C'est vrai.
Ça fait déjà plusieurs. Il a chaque fois été appelé.
Il est là à l'Euro, il est là à la Coupe du Monde.
Ouais. Et honnêtement, Yanouzaï, en pleine forme, lui peut débloquer un match.
On le voit contre l'Angleterre pour le match, le dernier match de poule l'année dernière. Ouais, c'est vrai, mais bon, au final, on bat le Brésil.
Ce qu'il fait, c'est parfait.
Il a convoqué Nasser Chadli, vous pensez qu'il a encore sa place?
Non.
Je sais pas où il
c'est
en
pour
est.
C'est pour la vie du groupe, je pense.
Le groupe, ça
fait longtemps qu'il a plus sa place. Au moins 3 ans qu'il est. C'était un chouette joueur. Ça a jamais été un pilier, mais ça a toujours été un vrai joker. Là, sa carrière est derrière.
Je sais même pas où il joue.
Il joue en Turquie.
Je sais pas s'il joue pour l'instant.
Je sais pas non plus.
En tout cas, il est dans la liste. On verra bien ce qu'il en ressortira. Mais c'est vrai que sans doute Ouais, voilà, le noyau très élargi, ça va lui permettre de tester aussi des combinaisons, parce que c'est pas simplement... sans doute que l'absence de Witzel va peut-être modifier un peu le système de jeu, parce qu'il a pas
de...
Je
pense pas qu'il va changer sa défense à 3, ça, c'est, non. C'est quand même... enfin, c'est son... Comment dire, c'est son système de base. Ouais. Quoi. Mais c'est vrai que au milieu, en fait, dans un système à trois défenseurs, il y a plein de combinaisons possibles à faire. Et ils sont pas obligés d'avoir une pointe basse et deux milieux qui sont un peu meilleurs avec le ballon. Ils peuvent très bien jouer avec même en fait, on est en train de parler de ça, mais ils peuvent très bien jouer avec, par exemple, je sais pas, De Donker et Tielemans l'un à côté de l'autre en pointe basse et mettre De Bruyne en pointe haute.
Ouais,
et ça, ce serait déjà, j'estime que ce serait.
Et Mertens et Carrasco sur les
exactement.
Flancs.
Exactement. Oui, oui. J'estime que ce serait mieux pour De Donker, par exemple, et pour Tielemans, absolument. Pour les deux de se retrouver à deux devant
ce
la défense.
Ce qui permet à Tielemans de pouvoir s'infiltrer et par contre sans découvrir parce qu'il sait quelqu'un exactement. Derrière. Moi, je reste aussi dans mes inquiétudes. Il y avait un point que j'aurais espéré résolu avant la compétition, était le deuxième attaquant, en tout cas la possibilité de quelqu'un qui peut remplacer Lukaku, qui peut rentrer dans le match. Je crois toujours très très fort en Batshuayi ou Benteke, mais il n'empêche, ils n'ont aucun des deux trouvé un point d'ancrage cette saison, leur permettant d'avoir du rythme suffisant pour pouvoir...
Batshuayi, à la Coupe du Monde, il n'avait pas de rythme, et à l'Euro, il n'avait pas de rythme non plus. Hein. Et pourtant... Comment ?
Il y a des stats de dingue.
Ouais, c'est ça. Pourtant, à chaque fois qu'il rentre, il marque.
Ouais, je sais.
Mais je suis complètement d'accord avec toi.
Oui, c'est évidemment un peu dommage.
Sur une plante ascendante. Hein.
Qui ?
Benteke.
Oui, d'ailleurs, il a dit dans le journal ce week-end, il a dit « Je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on douterait de ma sélection. » Bah, peut-être parce que tu as joué que 3 matchs cette année.
J'étais
étonné qu'il se pose la question.
Au hasard. Tu n'as pas été appelé.
Peut-être qu'on doute.
Il risque de jouer puisque Lukaku n'est pas sûr de pouvoir venir.
Alors, il est venu. Il est arrivé. Finalement, il a été testé négatif et il faut rejoindre le groupe. Mais est-ce qu'il va jouer ?
J'ai entendu en venant que... Et apparemment, l'Inter exigeait pour qu'il puisse jouer, qu'il soit assigné à résidence, une adresse qui soit donnée à l'Inter, qu'il n'y ait pas de, qu'il ne parte, qu'il ne fasse aucun autre déplacement que celui d'aller à l'entraînement ou au match, etc.
Ça devient compliqué.
Sinon, là on repart un peu sur des considérations tactiques, mais De Bruyne joue beaucoup faux neuf cette saison, hein, et ouais. Donc s'il manque un attaquant, franchement, il peut prendre le rôle et. Essayer de faire quelque chose, quoi.
Mertens a déjà joué.
Mertens peut jouer devant, bien sûr.
Ouais. Ouais, il a.
Mais évidemment, il a comme ancrage beaucoup. Sur des longs dégagements. Où...
Ah, c'est compliqué.
C'est pas le même film.
De toute façon, c'est pas la même tactique avec Lukaku. On lui donne la balle, il y a trois personnes. Voilà, il sait y aller au physique. Voilà.
De toute façon, avec les absences qui se profilent pour Witzel et probable peut-être, ou en tout cas, on le souhaite pas, hein, mais de Eden Hazard, il faut absolument pas que Lukaku il lui arrive quoi que ce soit, parce que non. Là c'est vraiment la pierre angulaire
de Bruyne, un des deux.
Là j'ai vu aujourd'hui, pour rassurer un peu sur Hazard, que le Real refuse qu'il se fasse opérer, et donc ça pourrait prendre 8 semaines pour qu'il revienne, donc il serait dans les clous pour l'Euro.
Ouais.
On nous l'a tellement dit.
Oui, bien sûr, après il faut pas qu'il se répète à l'entraînement un jour après, tu vois, mais...
Écoutez, on croise les doigts pour lui, pour Eden Hazard. Je vous propose, si vous avez rien à ajouter sur la sélection, qu'on avance. Non, rien à ajouter.
Non.
Eh bien, on va parler un peu.
Lesquels étaient d'accord avec la sélection.
Comment?
Lesquels étaient d'accord avec la sélection. Ah. Les 90%, il aurait fait pareil.
Bon, alors ça va.
Oh, 90%, c'est lui qui l'a créé.
c'est sur ses bases à lui.
Alors, on va passer à la Ligue 1, hein, dont on disait souvent que c'était un championnat qui était déjà joué. Là, ça n'est pas le cas. En tout cas, si j'ai un conseil à donner à nos auditeurs, c'est surtout de ne jamais m'écouter lorsque je fais un pronostic. La semaine passée, ici même, j'avais annoncé fièrement que le PSG serait sans doute pas champion. Et
ben, cette
semaine, j'ai envie d'annoncer le contraire. Hein, après le week-end passé, faut dire que le calendrier laissait pas supposer un tel dénouement à l'issue du week-end. Lille, leader, donc, était opposé au 19e. À domicile, alors que Paris se déplaçait sur la pelouse de Lyon, 3e, et les deux équipes étaient à égalité de points. On pensait donc pas que le championnat pourrait, lors de cette journée, être relancé. Et pourtant, Lille, leader avant la journée, s'est fait surprendre à domicile par Nîmes 1-2. Un résultat très surprenant quand même face au Crocodile Nîmois qui était classé 19e avant la rencontre. Paris avait chuté contre Nantes la semaine passée et cette fois-ci c'est au tour des Lillois de perdre face à un mal classé. Quant au Paris Saint-Germain, il a réalisé une première heure de très très haut niveau sans qu'il soit aisé selon moi de sortir une individualité, même si bien sûr Mbappé a mis un doublé et que ça le place au-dessus. Mais les Parisiens ont fait étalage d'une force collective assez impressionnante. Ils ont mis l'implication, l'engagement, leur talent. Tout ça pour puisque au bout de 52 minutes, il menait déjà 0-4. Alors ils se sont permis un petit relâchement qui leur a coûté 2 buts, qui aurait pu les faire plonger dans, à d'autres, d'autres saisons, ils auraient sans doute peut-être plongé à 10 minutes de la fin. Mais par rapport aux saisons précédentes, Paris a un atout maître, c'est Keylor Navas. Le gardien costaricien, il est actuellement sur un nuage et il semble parfois infranchissable. Je regardais précisément, il est tonique, c'est assez, assez fou, c'est-à-dire qu'il fait une parade, il est au sol, il est debout sur ses appuis, la dixième de seconde d'après est prêt à de nouveau intervenir. Il a fait beaucoup de bien au PSG. De son côté, l'AS Monaco, le quatrième dans ce groupe de quatre poursuite du titre, l'a emporté 0-4 sur la pelouse de Saint-Etienne. Les Monégasques sont sur un rythme dingue. C'est donc qu'ils ont empoché 30 points sur les 39 possibles depuis le début de 2021. Ce qui fait qu'au classement, ça a un petit peu tourné, ça se resserre en tête, mais Paris a peut-être pris une option importante. Paris est premier avec 63 points, mais une différence de but de plus 46. Lille est deuxième avec 63 points aussi, mais plus 31 seulement à la différence de but. Troisième, Lyon, 60. Quatrième, Monaco, 59. Et il y a un Paris-Lille qui se profile la semaine prochaine et qui risque d'être, dans 2 semaines, qui là va être sans doute décisif pour le titre.
Je pense avoir raison que Paris, en fait, depuis l'arrivée de Pochettino, n'avait joué qu'un match. C'était le match aller contre le Barça. Et hier, tu l'as dit, quoi, 60 minutes, c'était de la régalade totale. Et je pense qu'il y a un facteur à ça. C'est peut-être pas très académique, mais le milieu Gay-Danilo, il travaille, quoi. Je sais que beaucoup de gens l'adorent. C'est pas des Verratti qui vont polir le ballon, le short. Eux, c'est des gars qui sont là. Et puis Danilo, même, il marque une superbe reprise. Donc voilà, je pense que moi aussi j'avais mis Lille la semaine dernière, mais
j'allais bien y réfléchir, ça.
Mais par contre, je pense que Lille. Lyon va sauter du podium et que Monaco va les passer.
Ouais, Monaco est sur une.
Ils sont trop forts, Monaco. C'est impressionnant.
0-4, ça va dans tous les sens. Et leur meilleur buteur, Wissam Ben Yedder est dans un trou complet depuis peut-être 6 matchs. Et pourtant, ça les empêche pas de caracoler.
Ils ont été chercher Kevin Folland, un inconnu total, qui plante but sur but. C'est super plaisant de les regarder jouer, parce que c'est vraiment comme Niko Kovac qui vient du Bayern, mais qui avant était aussi en Bundesliga, je sais plus où. C'est vraiment du jeu à la Bundesliga, en fait. Ils en ont rien à faire de derrière, ils font que attaquer, et c'est super intéressant à regarder jouer.
Je suis d'accord, c'est vraiment une belle équipe que Monaco, et ce serait pas étonnant qu'ils viennent chatouiller les leaders et qu'ils soient sur le podium en fin de saison. Cette journée a été aussi l'occasion d'assister à un petit événement en championnat de France, puisque Jérémy Doku a enfin inscrit son premier but en championnat de France. C'était son 31e match et il a ouvert la marque à l'occasion de la victoire 1-3 du Stade Rennais à Metz. Il a repris un joli centre en retrait de Terrier, plein de sang-froid. Il a envoyé le ballon. Ouais, bien servi, mais il l'a mise. Je pense que c'était important pour lui après 30 matchs sans marquer. L'étiquette
1400 minutes.
Ouais, l'étiquette.
Enfin, il s'est fait exclure juste après. Hein.
Ah, j'avais pas fini. Pardon. Malheureusement, cette première, oui, effectivement, elle a été un peu gâchée puisque Sandoku. a été expulsé à la 51e minute, une expulsion qui est difficilement contestable puisqu'il a fait vraiment un geste d'attaquant, hein. Il est arrivé en retard, un peu comme Noah Leng, peut-être encore plus impressionnant. Il a mis une belle semelle au-dessus de la cheville de son adversaire, un geste qui aurait pu causer une blessure, donc il a été expulsé. Mais malgré tout, voilà, les Rennais à 10 contre 11 vont tenir et s'imposent 1-3 et ils pointent désormais.
C'est l'effet Pep Genesio, ça.
C'est Genesio. Ils pointent désormais à la 7e place au classement, juste derrière l'Olympique de Marseille. Alors un mot sur l'OM. Les Marseillais ont été balayés par les Niçois 3-0. Blaise, on t'écoute.
Ouais, juste, il n'y a rien eu, quoi. On pensait, c'est vrai que les deux derniers matchs contre Rennes et Brest, c'était plutôt des belles performances, mais je pense que c'est surtout parce que l'entraîneur les a, donc Jorge Sampaoli, les a un peu secoués. Mais là, c'est juste le retour des seniors en pantoufle claquette qui sont sur le terrain, qui font rien. Et puis, même, je le regarde beaucoup depuis qu'il est arrivé, c'est Milik, je le regardais et franchement, le gars, je pense qu'il se disait qu'il jouait avec des enfin, je sais pas, des culs de jatte, quoi. Enfin, il était dépité, mais vraiment dépité. Il était là, mais qu'est-ce que vous faites, les gars?
Lui, il est arrivé au bon moment.
Ah ouais, mais. Et,
au bon endroit, au bon moment.
Et c'est dommage, parce que franchement, il est quand même plutôt bien entouré. Il a des gars comme Payet, il a des gars comme Thauvin, et il touche pas un ballon parce qu'il y a personne qui lui fait la passe. Enfin, ouais, c'était honteux, ce match, tout simplement. Franchement, j'ai même pas les mots, je crois.
Enfin, en européen, avec quantième place en France?
Alors, c'est
alors le cinquième est en Confederations Cup,
ah oui,
la nouvelle coupe. À part si Paris Saint-Germain gagne la coupe et le championnat.
Ouais.
Parce que c'est
et la Coupe d'Europe.
Et ouais. Non, Lille ne peut plus le faire.
Mais ouais,
c'est y a plus que Paris qui peut le faire, qui gagne la voilà. coupe et le championnat, je crois.
C'est pas impossible non plus.
C'est ce qui n'est pas impossible. Pas impossible.
Donc l'effet Sampaoli, c'est terminé. Est-ce qu'il y aura un effet
Sampaoli? Je pense que l'effet Sampaoli, il arrivera l'année prochaine.
L'année prochaine, s'il doit arriver.
Ils vont virer 80% de l'effectif et ils vont faire revenir 80% de nouveaux joueurs.
Allez, à noter, chez les Niçois, on va en finir avec la France là. Dans la famille Thuram, on connaissait le père, bien sûr, le fils, Marcus, eh ben, on connaît le petit frère maintenant, Kefren, qui n'a pas encore 20 ans et qui a réalisé un grand match. Il a mis notamment un très joli but de la tête. Voilà, comme quoi le talent... Et dans les gènes, hein. Il y a pas grand chose.
Le père marquait pas beaucoup à part deux goals.
Non, il a mis deux buts, un peu important.
De sa carrière.
Un peu important.
Si je dois en marquer que deux, je veux bien marquer.
Ouais, c'est ça. Voilà. Écoutez, il est pas. Allez, on traverse la Manche depuis la France pour se rendre en Angleterre, où il n'y avait pas de Premier League cette semaine, mais il y avait la plus prestigieuse, enfin celle qu'on appelle la plus prestigieuse des compétitions, la FA Cup. C'était les quarts de finale de la Coupe d'Angleterre. Il y avait deux superbes affiches, deux beaux chocs. Everton qui recevait Manchester City et Leicester qui recevait Manchester United. Et ces deux matchs ont été marqués par le saut du talent des Belges, puisque l'inévitable Kevin De Bruyne a marqué le deuxième but après un but inscrit par Gundogan pour City. Les bleus ciel, les Sky Blues, je sais pas, ont pris pourtant leur temps. Ils ont marqué aux 90e minute, pardon. Ils sont donc qualifiés pour les demi-finales. Ils rencontreront d'autres Blues, ceux de Chelsea.
Et ils ont marqué une fois que De Bruyne est rentré. On voulait le faire un peu se reposer. Il est rentré à la 80e. Il fait un presque assist pour le premier goal et il marque et le deuxième. Voilà, 10 minutes signé Kevin.
Exactement. Il n'a pas besoin de plus.
Comment il l'appelle en Angleterre, De Bruyne. Ils disent tout le temps ce E à la fin. Je ne sais pas pourquoi.
faut leur apprendre. Et le deuxième Belge qui a encore éclaboussé de sa classe, on en parlait tout à l'heure, le match, c'est un très grand Yuri Tielemans, hein, qui a marqué, qui permet donc aux Foxes de Leicester de se qualifier pour la demi-finale. C'est vrai que s'il y a deux joueurs, allez, avec Lukaku, les deux meilleurs joueurs belges de la saison, c'est bien eux, hein, De Bruyne et Tielemans. Et Courtois. Et donc on rêve, enfin en tout cas nous on rêve à un duel qui opposerait en finale les deux meilleurs belges de la saison. Alors pour l'instant, donc je l'ai dit, City jouera contre Chelsea et Leicester jouera Southampton en demi-finale.
C'est jouable.
Ouais, c'est jouable. On peut avoir les deux meilleurs, quasiment deux des meilleurs joueurs du championnat, hein, d'ailleurs, d'Angleterre. Tout poste et toute nationalité confondue, ils ont été très impressionnants.
Je pense que même il y en a un des deux qui est Kevin De Bruyne, qui est sûrement dans les meilleurs joueurs du monde. Là.
Pour l'instant, oui.
Je crois.
Pas loin, oui.
Ouais, je pense que. Enfin, déjà, je pense que c'est le meilleur milieu du monde. Et avec Lewandowski, ils doivent se battre pour le meilleur joueur.
Il fait une très très grande saison.
Ouais. Enfin, il est sur la même planète que les extraterrestres. Ouais,
la planète que Hazard a quittée depuis longtemps.
Aïe, aïe, aïe.
Oh.
Donc voilà, on aura un retour de la Première Ligue dans quelques temps. Mais là, voilà, la FA Cup, vous aimez bien la FA Cup? Est-ce que ça vous... C'est devenu une compétition banale ou pas? Ou est-ce qu'il y a quand même de la magie?
Moi, j'ai souvenir de petit de la finale sur le cérémonial avec le stade, les deux tours.
Le roi, la reine.
Ouais, nous aussi, je crois qu'en France, c'était quasiment le seul match qu'on avait, match étranger qui passait en direct de temps en temps.
Mais j'en parlais avec Blaise Rantaine. La meilleure preuve que ça a perdu de sa superbe, c'était ce qu'on disait sur De Bruyne. De Bruyne a été mis au repos.
Ouais.
Le fait que le meilleur joueur, enfin, un des meilleurs joueurs soit mis au repos. Pour un match de cette importance, ça veut dire que ce match est peut-être moins important que d'autres.
Ouais.
Et donc, de fait, ça a malheureusement perdu un peu de sa superbe. Comme on l'avait dit en plus la semaine passée ou il y a deux semaines, c'est lié que toutes les compétitions, il y a tellement de compétitions et tellement de compétitions de haut niveau que toutes ne peuvent pas se situer au même niveau et que certaines ont donc perdu un tout petit peu, un tout petit peu, voilà, de prestige. Il n'empêche, la FA Cup reste la coupe la plus prestigieuse au monde.
C'est ça. Il y a, enfin, pour montrer ce que Steve dit, je regarde pas mal la Premier League, moi. Et ce week-end, j'étais content qu'il n'y ait pas la Premier League et j'ai pas regardé le foot anglais parce que il faut une pause, quoi. Enfin, vous voyez.
Et pourtant, il y a Tottenham qui a joué, il y a Arsenal qui a joué,
il y a des matchs en retard. Il y avait quelques matchs en retard, ouais, mais bon, c'est pas. D'ailleurs. C'est cool quand il y a la journée avec le match à 5h le dimanche après-midi avant de manger. Enfin, c'est.
Je sais pas, pour Gadoès, c'était pas si peu important que ça parce qu'il l'a mis au repos, mais sur le banc quand même. Il a gardé la main.
Au cas où ça se passait pas bien, 80e.
C'est ce qui s'est passé, voilà. C'est dit, on va pas aller en.
On va pas aller en replay.
On va chauffer 10 minutes, le temps de gagner, puis c'est terminé.
Oui, parce qu'il y aurait sans doute eu un replay s'il n'y a pas de prolongation. Je sais pas c'est si ça, à ce stade de la compétition, il y aurait. Mais c'est dit, on va peut-être s'éviter un replay. Donc, Kevin,
enlève le FA Cup, c'est mythique.
Ouais, ouais.
Ça reste mythique. Et c'est vrai, tout le cérémonial de la finale où là, il y a la reine. Il y a la reine, pas l'euro.
Il y a la reine,
il y a la reine qui arrive, il y a tout, voilà, l'hymne national au début, Wembley qui sert de terrain de jeu.
Meghan sera là.
J'étais tombé sur une interview de Frédéric Piquion, un ancien joueur un ancien joueur français qui avait joué la finale de la coupe de la FA Cup avec Portsmouth à l'époque. Et il expliquait qu'il y avait le prince William qui était venu et qui leur avait serré la main. Et lui expliquait qu'il savait pas qui c'était. Il avait dit, mais c'est qui ce mec qui me serre la main là?
C'est qui ce jeune homme? C'est le futur roi d'Angleterre, monsieur. C'est vrai que là, les Coupes d'Europe, enfin, et surtout la Ligue des Champions, ont tué ces coupes, puisqu'à, avant, lorsque seul le champion était qualifié pour la Coupe des Champions, et ben c'était prestigieux de gagner. C'était déjà prestigieux en soi de gagner la Coupe nationale, mais ça permettait de se qualifier pour une autre Coupe d'Europe qui était prestigieuse aussi, la C2. Et puis avec l'extension de la Coupe de la Ligue des Champions, ça a été englobé. Et du coup,
vivement la Confederations Cup.
On
va voir ça. Si on allait en Série A. L'Inter, le leader, était dispensé de match ce week-end, hein, bien malgré eux, puisqu'il y a une contagion de Covid assez importante dans l'effectif, et donc leur match contre Sassuolo a été reporté.
Je me disais bien que j'avais pas vu le but de Lukaku.
Donc on n'a pas pu se régaler des diableries de Lukaku, mais un autre Belge était de sortie, et pas des moindres, Dries Mertens, qui a fait un doublé, tout simplement, pour permettre à son club de gagner à Rome contre la Roma, un doublé dont un coup franc de toute beauté.
Il atteint les 100 buts avec 100 le buts. Napoli grâce à ces deux buts-là. Et c'est quand même impressionnant la marque qu'il va laisser dans ce club.
Le premier but est quand même assez génial parce que la remise de la tête.
Mm-hmm. Ouais,
c'est d'une lucidité.
Pour nos auditeurs qui n'auraient pas vu, il y a une passe en profondeur pour son coéquipier d'attaque qui la remet en retrait sur le côté.
C'était Insigné.
Et pour Dries Mertens qui arrive et devant le but vide.
Insigné, le petit rectangle, on dit il va essayer de marquer, pas du tout.
Il fait une remise.
En arrière de la tête.
Ce duo, il est génial. Je pense qu'ils combinent 2 mètres tous les deux réunis.
Ils sont tout petits
et ils arrivent à gagner des ballons.
Et le coup franc est magnifique. Il est sur le côté, donc un coup franc juste avant l'entrée du grand rectangle. Sur le côté gauche quand on regarde le but, donc généralement on se dit qu'il va enrouler, passer au-dessus du but pour essayer de la mettre sur la droite du gardien, puis là ils ont intelligemment placé un mur de joueurs du Napoli sur le côté ouvert, et puis ils sont tous partis au moment où il a frappé, et du coup le gardien l'a pas vu partir du tout, et c'est allé côté gauche du gardien qui a plongé à contre-temps. Mertens, ça va être il a été blessé, il a loupé une dizaine de matchs cette saison, il revient d'une blessure qu'il a mis sur le flanc pendant quelques temps, ça c'est un atout pour les Diables Rouges.
Je fais toujours attention avec Mertens parce qu'il est un peu plus âgé. Que les autres, et donc c'est vrai qu'il a une tendance à peut-être moins se blesser un peu plus souvent, et ne pas toujours enchaîner les matchs.
Il a tendance à disparaître dans des matchs aussi.
Exactement.
Il a tendance des fois, il est super bon pendant je sais pas genre 30 minutes, et puis les 60 minutes d'après, il disparaît complètement.
D'ailleurs, mais Martinez l'a toujours adoré le faire jouer, à sa grande frustration, mais le faire jouer comme joker. Hein. Le ouais, piquer ouais, au vif ouais. Et puis le faire revenir, le faire monter pour la dernière demi-heure à la 60e.
Ça a déjà fonctionné plusieurs fois.
Ah oui.
Ouais, bah, oui, il faut dire qu'on ne peut pas empiler, il n'y a pas la place pour tout le monde, mais là, justement, avec les peut-être absences de, la peut-être absence de Eden Hazard, il y aura une carte à jouer importante pour
et pour rebondir en disant qu'il va rester une légende à Naples. Faut pas oublier qu'il a eu des sirènes venant de l'étranger, ouais. Très lucratives venant de tous ces clubs qu'on connaît en Chine et ailleurs, et il n'y a jamais succombé. Mm-hmm, il est toujours resté, ce qui rajoute
même,
évidemment.
Même des clubs européens, hein, y a pas que les clubs.
Man United était.
Ouais, c'est ça. Je pense que l'Angleterre à un moment a vraiment essayé de venir le chercher, et on sait qu'en Angleterre on gagne bien mieux sa vie qu'en Italie, et pourtant il est resté. Et je pense que ça, dans le cœur des supporters de Naples, c'est. En fait, je me demande, franchement, bon, je vais peut-être aller un peu loin là, mais est-ce que dans le cœur des supporters napolitain, il n'est pas l'égal de Maradona, quoi. Franchement, il l'a dépassé en termes de buts, il l'a dépassé en termes de matchs, il a passé toute sa carrière là-bas, alors que Maradona est parti en mauvais termes. Enfin, c'est. Maradona,
écoute, le jour où on nommera le stade Dries Mertens, on pourra dire qu'il a. Non, mais t'as raison.
C'est pas une attaque contre Maradona, bah, je sais très bien que Maradona est.
Il est ça pour la génération de maintenant.
Oui, c'est ça, voilà, ouais. Ouais, oui,
comme
oui, c'est ça.
Marek Hamzik, qui était juste avant lui, qui était aussi une grande figure, et c'est curieux d'ailleurs, enfin curieux. Mertens comme. Hamzi sont restés à Naples assez longtemps, alors que c'est pas le club qui vous assure tous les ans une participation à la Ligue des Champions, la lutte pour le titre tous les ans, et pourtant ils sont restés. Ouais, c'est ça. on leur a fait comprendre qu'il valait mieux pas partir. ne partez pas.
C'est chouette parce que des clubs, enfin. Peut-être suis-je un peu vieux jeu, comme j'aime encore cette Coupe des Champions que tu venais d'évoquer, moi. Il y a rien à faire. Des clubmen, l'amour du maillot, ça, je trouve, enfin, c'est des valeurs que j'ai toujours adorées dans le foot. Ces gens qui sont attachés à un club. C'est pas pour ça qu'ils partent jamais. Mais ils sont pas de passage. Ils sont pas en transit. Et ce côté, vraiment, un club, une emblème, ça crée des mythes. Et ça crée des passes. Quand on est gosse, quand on aime le foot, on n'aime pas. On déchante très vite quand il y a un joueur qui est passage d'un an ou deux. Quand on a un vrai mythe qui est là pour 5 ans, au moins, bah, ouais, ça fait rêver. Ça fait rêver. On l'associe au club.
Pour plonger dans des souvenirs anciens, à l'époque de la grande équipe de France des années 80, Platini était bien sûr le leader technique charismatique de la génération. Et pourtant, je pense que dans le cœur des gens. C'était Giresse qui avait le plus de
Gigi.
Et Gigi, une des raisons aussi, c'est parce qu'il a fait, à part ses deux dernières saisons, parce qu'il est parti en mauvais termes de Bordeaux, mais sinon il a passé 15 ans à Bordeaux et c'était le joueur d'un club quasiment. Et ça, c'est vrai que chez les gens, ça marque.
Il avait plus de mérite à l'époque, parce que quand même, quand des sirènes de l'argent qui sonnent aux oreilles des joueurs actuels. Faut relativiser parce que Dries Mertens, il gagne bien sa vie à Naples.
Oui, déjà.
À l'époque, à Bordeaux, tu gagnais pas forcément.
Alors qu'à l'époque, rester dans un club tout le temps, alors qu'il y avait des sirènes qui faisaient sonner de l'argent.
Mais ils sont pas tous comme ça. Hein. Tu te rappellerais pourtant, moi, c'était mon chouchou à un moment au Standard, mais quand Witzel, qui était pourtant dans des endroits où il fallait qu'il mette sa vie, a décidé d'aller jouer en Chine parce que pour mettre sa famille à l'abri, il gagnait très bien là où il était. Et pourtant, ça lui suffisait pas. Donc chapeau à Mertens. Et tant mieux. Et j'espère vraiment qu'il restera de manière indélébile dans les cœurs napolitains.
Et sachez que Giresse a failli signer à Naples avec Maradona. On aurait eu là aussi une équipe de pygmées.
Giresse, il est dans le carré magique. Ouais.
Ouais. Giresse, Platini, Tigana et Fernandez.
Et j'ai appris la dernière fois que le vrai était avec Gengini. Le vrai carré magique était avec Gengini.
Hidalgo avait eu une. Quand même assez de, je sais pas, il faut que j'utilise le bon terme, de cran, puisqu'il avait décidé de jouer avec 3 numéros 10, qui à l'époque était complètement impensable, et le milieu plus défensif, c'était Jean Tigana, qui était pas non plus,
Je vais me la péter un petit peu.
Comment ?
Je vais me la péter un petit peu.
Je t'en prie.
France Football, qui est un journal comme référence en,
sérieux ?
En France, avec qui reste en couverture, et il y a une photo de moi à l'intérieur.
Oh, et ben, cher ami auditeur, si vous tombez sur un numéro de. Tu as l'année ? Non.
En fait, j'ai fait un stage de foot.
À Cap Giresse ? non, Cap Girondin ou
Jean-Michel Darquet.
Ah, Jean-Michel. Stade oui. Jean-Michel Darquet.
Et donc j'ai reçu un trophée, etc.
Pas mal, pas mal.
On veut des photos. Hein, ça doit exister.
On va terminer juste un mot avant de nous quitter. Le meilleur ami de Blaise a marqué aussi. Zlatan.
Il a pleuré aujourd'hui aussi en conférence de presse en évoquant son fils. Ah yes. Pour son retour avec la Suède.
Wow, c'est vrai que Zlatan, Dieu est de retour comme il l'a lui-même dit.
Quel scandale quoi, les 4 meilleures performances de la Suède en compétition internationale, il était même pas là.
Mais écoute, on l'aime bien malgré tout, on l'aime bien. Ça reste un entertainer, un grand joueur et un entertainer
Une icône.
Unique.
Hein.
Ouais, c'est unique. Icône. Écoutez, c'était formidable de passer 7h30 avec vous, comme tous les lundis. Merci Blaise. Merci Steve, merci Henri.
Merci Samuel, c'est une joie de t'avoir
écouté. Eh ben écoutez, moi aussi. Et sachez que la semaine prochaine, on se retrouve ici et on parlera aussi. On